Tur Jesus Christus.
Une feuille de route diplomatique. François vient de présenter ses vœux aux ambassadeurs accrédités près le Saint-Siège. Une quinzaine de pages sur la diplomatie de l'espérance, dénonçant les manipulations des masses et revenant sur les conflits en Ukraine, au Proche-Orient, mais aussi sur le continent africain. Les détails juste après les titres. Dans ce journal, nous irons également au Mozambique. Après des mois de manifestations, la tension monte d'un cran alors que le candidat perdant à la présidentielle vient d'atterrir à Maputo. Un ancien député de l'opposition au Cambodge assassiné en Thaïlande. Un assassinat politique selon les défenseurs des droits humains. Le reportage à suivre.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonjour à toutes et à tous. Dans un monde en crise, le pape expose sa diplomatie de l'espérance. Devant les ambassadeurs de 184 États actuellement accrédités près le Saint-Siège, François a présenté ses traditionnels vœux pour la nouvelle année jubilaire. Le pape de 88 ans, toujours grippé, n'a pas entièrement prononcé son dense discours. Il a été lu par un membre de la curie en salle des bénédictions. Le texte d'une quinzaine de pages détaille quatre piliers dans l'ordre suivant, Delphine Allaire, vérité, pardon, liberté et justice.
Oui Marine, c'est de la vérité malmenée dans une époque polarisée, habitée par les peurs qui tracent hélas de nouvelles frontières identitaires dont le pape parle. Lui qui souhaite que l'année de grâce fasse prévaloir la rencontre sur l'affrontement, appelle les ambassadeurs à dialoguer avec tous, y compris les interlocuteurs les plus gênants ou considérés insuffisamment légitimes à la négociation. Une vérité parfois aussi trompée au siècle de l'intelligence artificielle pouvant s'avérer outil de manipulation des consciences à des fins idéologiques et de colonisation culturelle. L'évêque de Rome évoque entre autres les documents diplomatiques multilatéraux où certains peuvent instrumentaliser chaque mot ou virgule.
Oui, c'est souvent le cas Delphine dans les tentatives des résolutions des conflits pour lesquelles François souhaite en 2025 une diplomatie du pardon.
Absolument, avant tout pour l'Ukraine, dit le successeur de Pierre, lucide sur les efforts encore à faire pour panser, je cite, les plaies de l'agression. Pour le Proche-Orient, François renouvelle son appelle à un cessez-le-feu et à la libération des otages, dénonçant la prolifération d'armes toujours plus sophistiquées et l'inobservance du droit international humanitaire. Le pape argentin a ensuite tourné ses pensées vers l'Afrique où sévit entre autres le fléau du terrorisme comme au Sahel. La diplomatie du pardon implique de construire des sociétés pacifiques comme le Nicaragua, cité en tant que dossier délicat en termes de liberté religieuse.
Mais liberté et justice, donc deux grands principes fondamentaux pour le Saint-Siège, au cœur de la signification jubilaire que le pape n'a pas manqué d'évoquer.
En commençant par les persécutions contre les chrétiens par des groupes terroristes en Afrique et en Asie, de façon plus insidieuse en Europe sous des formes juridiques. En Orient, François souhaite que les chrétiens participent pleinement à la stabilisation. En Syrie, bien sûr, dont le pape rappelle la coexistence pacifique, mais aussi au Liban. Le Saint-Père souhaite que le visage de cette diplomatie de la liberté s'incarne aussi dans les voies sûres et régulières pour les migrations, trop souvent entouré d'un sombre nuage de méfiance quant à la justice dont il se fait héros. François rappelle que tous nous sommes prisonniers car débiteurs de Dieu. Il plaide une nouvelle fois pour l'annulation de la dette des pays pauvres, dans la même tonalité Marine que son message pour la journée mondiale de la paix de cette année.
Merci beaucoup Delphine. Delphine Allaire, et les détails sont bien sûr à retrouver sur notre site internet. Vous connaissez l'adresse www.vaticannews.va. La séance devrait reprendre d'ici quelques minutes au Liban. Lors d'un premier vote ce matin au Parlement, le commandant chef de l'armée, favori Joseph Aoun, n'a pas obtenu le nombre de voix nécessaires pour être élu président. 71 votes sur les 86 requis. Cela fait deux ans au pays du Cèdre que le poste de la présidence est vacant. Il doit revenir à un chrétien maronite, comme le veut le système confessionnel libanais. 70 personnes tuées ces dernières 24 heures dans la bande de Gaza. Le bilan depuis le 7 octobre 2023 dépasse maintenant les 46 000 morts, alors que de fortes pluies et des inondations aggravent les conditions dans lesquelles survivent des milliers de déplacés dans l'enclave palestinienne. Hier, la Croix-Rouge internationale réclamait un accès sûr et sans entrave pour acheminer l'aide humanitaire jusqu'aux bébés et aux enfants qui meurent de froid et de faim, annonce la Croix-Rouge. Au Mozambique, une grave crise politique est en cours. Ce sont justement les propos du pape dans son discours ce matin aux ambassadeurs. Une crise crise qui pourrait connaître un regain avec le retour au pays ce matin du candidat de l'opposition, Venancio Mondlane. Il revendique toujours la victoire à la présidentielle d'octobre dernier face à Daniel Chapeau, l'homme du Frelimo, le parti au pouvoir depuis 50 ans. Et son arrivée à Maputo a déjà provoqué des affrontements, Xavier Sartre.
Oui, Venancio, comme l'appellent ses partisans, n'avait pas encore atterri que la police avait ouvert le feu contre ses partisans aux abords de l'aéroport de Maputo, la capitale, blessant l'un d'entre eux. Pourtant, le parlementaire, ancien chroniqueur radio de 50 ans, est rentré au pays pour dialoguer, c'est ce qu'il a affirmé, avec le Frelimo, le parti qui domine le Mozambique depuis l'indépendance. Il s'était exilé après la présidentielle, craignant pour sa vie, deux de ses proches ayant été assassinés. Le revoilà donc prêt à revendiquer la victoire. Il a d'ailleurs mis en scène une prestation de serment symbolique, main sur la Bible, à l'aéroport, avant de se rendre en voiture en centre-ville, accompagné de milliers de partisans. De nouveaux affrontements ont alors éclaté entre eux les forces de l'ordre. Gaz lacrymogène, tir à balles réelles, nouveaux blessés. Le gouvernement est sur la défensive. La justice, elle, est à l'offensive. Elle a lancé des poursuites contre Venancio, qui se dit prêt à se soumettre et à se défendre. Ce serait l'occasion pour lui de montrer qui sont les vrais coupables des crimes produits depuis la présidentielle. 300 personnes, Marine, ont déjà en effet perdu la vie.
Merci Xavier Sartre. Le calme est revenu à N'Djamena, la capitale tchadienne, après l'attaque du palais présidentiel hier soir par un commando de 24 personnes. Les hommes ont débarqué d'un camion-remorque devant la résidence du président. Des tirs ont éclaté, 18 des 24 assaillants ont été tués. Les premières informations évoquaient une possible attaque terroriste de Boko Haram. Mais selon la présidence, le commando était, je cite, un ramassis de pieds nickelés, armé de machettes, drogués et alcoolisés. Les propos de l'ancien et futur président américain Donald Trump sur l'annexion du Groenland n'en finissent pas de faire réagir. La souveraineté du Danemark sur le Groenland doit être respectée, a répété ce matin la chef de la diplomatie européenne, Kaya Kallas. Le Kremlin dit lui surveiller de très près la rhétorique dramatique du futur chef de la Maison-Blanche. Londres, de son côté, est plus embarrassée. « Je n'ai pas pour but de condamner notre plus proche allié », a déclaré le chef de la diplomatie britannique. Hier soir, le secrétaire d'État américain s'est voulu rassurant. Une intervention militaire des États-Unis au Groenland n'aura pas lieu, a assuré Anthony Blinken. Direction maintenant l'Asie du Sud-Est, où les défenseurs des droits de l'homme dénoncent un climat de répression transnationale croissant, deux jours après l'assassinat d'un ancien élu franco-khmer et opposant au régime cambodgien, assassinat sur le sol thaïlandais en plein cœur de la capitale Bangkok. Hier soir, le principal suspect a été arrêté à Bangkok. Valentin Cébon.
La traque n'aura pas été longue, moins de 48 heures. Hier soir, le tireur présumé du meurtre de Lim Kimia, un opposant cambodgien abattu mardi à Bangkok, a été arrêté au Cambodge. Phnom Penh nie toute implication dans l'assassinat de ce franco-khmer et ancien élu du Parti du Sauvetage National du Cambodge, une formation d'opposition désormais interdite par le régime cambodgien. Mais pour les défenseurs des droits humains, il s'agit clairement d'un assassinat politique. Émilie Palami Pradichit, directrice de Manushya Foundation, une ONG qui protège les militants en Asie du Sud-Est.
Pour nous, c'est clair que ça a été orchestré par Phnom Penh. Les assassinats de ce type contre les dissidents politiques sur le sol étranger, ce ne sont pas des actes isolés. Ils font partie d'une stratégie pour réduire au silence les voix critiques.
Selon elle, cet assassinat s'inscrit dans un schéma inquiétant de répression transnationale à l'encontre des dissidents cambodgiens espérant trouver refuge en Thaïlande.
La Thaïlande est devenue un terrain fertile pour la répression transnationale. Il y a eu une impunité généralisée, une coopération tacite avec les régimes autoritaires voisins et une instrumentalisation des systèmes judiciaires et sécuritaires pour faciliter ces opérations de répression.
D'après un rapport de l'ONG Freedom House, plus de 150 personnes en Thaïlande ont été victimes de répression transnationale depuis 2014. Valentin Cébron, Bangkok, Radio Vatican.
Ils sont des centaines de milliers de fidèles à se presser pieds nus aujourd'hui dans les rues de Manille pour tenter d'approcher la statue du Nazaréen noir. La procession annuelle vers l'église Quiapo a commencé avant l'aube dans la capitale des Philippines. Plus de 2 millions de personnes sont attendues. Merci de votre écoute et de votre fidélité. L'information du Vatican, de l'Église et du monde revient tout à l'heure en direct de Rome à 18h. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle après-midi.